Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël, désormais en duo avec Stéphane Bern. Et oui, c'est moi en chair et en os. Stéphane, vous les touchez ?
Non, je peux pas. Il y a
c'est vrai, on n'a pas le droit.
Sanitaires.
On n'a pas le droit pour différentes raisons. Entre 16h et 18h, nous sommes là. Et à ceux qui craignaient que je me sente tout petit à côté d'une telle légende de l'audiovisuel français, je vous dis, détrompez-vous. Avec Stéphane, on présente vraiment cette émission à 50-50 sur un pied d'égalité. Bon, la seule différence, évidemment, c'est que lorsque lui il sort de l'ascenseur et qu'il arrive dans la rédaction, je mets un genou à terre et m'exclame respectueusement :
Longue vie à mon cire !
Longue vie à notre
cire ! Longue vie à notre cire !
Stéphane, avoue que c'est comme ça que ça se passe.
Mais non.
Des petits rituels comme ça qu'on met en place.
Mais qui peut croire une chose pareille, Mathieu ? Bonjour à tous. Bienvenue dans Historiquement Vôtre. Chaque jour, de 16h à 18h sur Europe 1. Avec ce grand fou de Mathieu Noël, on refait l'histoire sans complexe autour de trois personnages qui n'ont rien en commun sur le papier et qui pourtant ont un point en commun.
Et oui, chaque après-midi, on vous raconte les destins extraordinaires de personnalités qui ont fait l'histoire. Deux d'entre eux vous seront racontés par Stéphane Bern. Quant au troisième personnage, c'est mon coup de cœur, moins historique peut-être, mais plus dans l'air du temps.
Aujourd'hui, on se penche sur les grands attaquants de l'histoire.
Oui, alors j'ai proposé Olivier Thom, mais Stéphane ne connaissait pas. Normal, en même temps, quand vous étiez petit, vous regardiez quoi à la télé, vous, Stéphane ? Le Manège Enchanté ? Directement Léon Zitrone, je ne sais pas.
Et puis, il y avait aussi Guy Lux.
Guy Lux, oui, c'est encore plus vieux que ce que je pensais, mon Dieu. Je voulais faire une blague, mais en fait, la réalité est encore pire. En tout cas, aujourd'hui, dans notre spécial attaquant, je laisserai à Stéphane Bern le soin de nous parler de Marc-Antoine et Napoléon, qu'il a bien connu. Et pour ma part, je vous parlerai d'un attaquant, un vrai, qui, contrairement à Napoléon, était très aimé en Angleterre. Il s'agit bien sûr d'Éric Cantona, poète et footballeur français de la fin du XXe siècle.
Oui, vous l'avez compris, chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on revisite l'histoire, toute l'histoire, la grande, la petite, la moyenne. Au sommaire aujourd'hui, et comme chaque jour, nos chroniqueurs qui s'attaquent à tous les sujets. Il remonte à sa manière aux origines souvent étonnantes d'un objet de notre quotidien, d'une invention ou d'une passion. Cet après-midi, David Castello-Lopez nous raconte les origines du béton armé. Clémentine Portier-Kaltenbach nous fait pénétrer sur la pointe des pieds dans l'intimité de l'histoire, à la découverte des petits secrets des grandes ce monde. Et aujourd'hui, un drôle d'attaquant avec Moulay Ismaël, père de quelques 1171 enfants.
Mais non.
Oui, à côté, vous faites petit joueur.
Bah oui,
et
j'en ai
avec
qu'un.
Olivier Couls. Il y a que
1170. Vous avez du mal. Vous avez du mal avec les chiffres. Avec les chiffres, les chypriotes et aussi les chiffres.
Et vous avec les chips aussi. Je vois que vous avez du mal.
Et en parlant de chips.
Et justement, en parlant de chips, Olivier Couls, notre spécialiste de la bonne chair, nous savourons avec lui l'histoire de la cuisine. À l'honneur cet après-midi, la confiture.
Je vous ai souvent trouvé les doigts dans le pot.
Oui, c'est un peu comme votre culture. Oh, moins on en a, plus on l'étale.
Oh, le saligo. Vous oubliez systématiquement ce moment de l'émission, certes gênant pour vous, Stéphane, mais néanmoins au programme, notre quiz Burn to be Alive, qui permet à nos auditeurs de vérifier s'ils ont plus ou moins de culture que vous en histoire. Et on a souvent de sacrées surprises. On verra si vous remontez la pente aujourd'hui, Stéphane, ça sera dans une grosse demi-heure. Pour le moment, accueillons déjà David Castello-Lopez. Bonjour David.
Bonjour.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre. Cet après-midi avec Mathieu Noël, on vous raconte les destins incroyables de trois des meilleurs attaquants. Mais avant cela, depuis quand, comment et surtout, pourquoi a-t-on créé le béton armé ? Vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question.
Je confirme,
oui. Eh oui, qu'importe. Lui, il a la réponse, c'est David Castello-Lopez.
Oui, alors Mathieu, Stéphane, moi j'ai une sorte de défaut. J'ai tendance à m'identifier aux choses comme si c'était des personnes. Quand je vois par exemple une théière un peu moche, eh bien, j'ai tendance à me dire « Oh la pauvre !» Vous voyez ? Non mais c'est vrai, alors que bon, elle s'en fout, elle vit pas. Mais j'ai un peu la même chose avec les matériaux. Il y a des matériaux qui sont stigmatisés alors que d'autres reçoivent tous les honneurs. Et ça me fait un peu de peine. Le palissandre, par exemple, tout de suite, ça fait chic. Je veux dire, si le palissandre, c'était quelqu'un, ce serait Stéphane Bern.
Oui, c'est très gentil, merci. Oui. Mais je crains la comparaison, voilà, vous me pointez les doigts.
Non,
mais
vous avez un côté un peu ardoise. Vous
voyez, ouais, voilà, je trouve. Merci, mais j'aime bien la couleur ardoise.
Mais il y a des matériaux qui sont rejetés de la vie et qui me font de la peine. Et parmi eux, il y a le béton armé. Le béton armé, c'est vraiment le mal-aimé des matériaux de construction.
Mal-aimé, je suis le béton armé.
Très bien. Le béton armé, donc, c'est vraiment le mal-aimé des matériaux de construction. On considère qu'il est moche, qu'il n'a pas de charme. Alors, bien sûr, il est costaud, mais pas costaud comme Brad Pitt, vous voyez, costaud comme un pauvre docker qui passe 12 heures par jour à travailler, mais qui le soir venu, après ses 12 heures de labeur, est refoulé à l'entrée de la boîte de nuit. Et pourtant, il nous rend immensément service, le béton armé, en silence, discrètement, sans se la péter. On en fait des ponts, des bunkers nazis, des bâtiments d'une solidité remarquable. Et donc moi, comme toujours, j'ai voulu savoir d'où ça venait. Et pour une fois, c'est pas moi qui suis allé chercher l'information, c'est l'information qui est venue à moi.
Comment cela ?
J'étais à Bourg-la-Reine. Bourg-la-Reine, c'est une ville des Hauts-de-Seine assez sympa, dans laquelle il y a un cimetière. Et j'étais venu dans ce cimetière spécialement pour me recueillir sur la tombe de Carlos, qui est un chanteur que j'aime beaucoup parce qu'on écoutait ça dans la voiture quand j'étais petit. Et donc, je finis de me recueillir sur la tombe de Carlos. Et là, je me retourne. J'étais encore un petit peu ému et solennel, vous voyez. Je me retourne et je vois une très, très grande tombe en béton armé. Je m'approche et là, je vois une plaque sur laquelle est écrit « C.J. François Henbic, l'inventeur de la construction en béton armé ».
Non.
Et là, moi, je suis content. Hein. Dans ce genre de situation, je suis content. J'ai complètement oublié Carlos. Et je me suis assis dans un café. J'ai fait quelques recherches sur ce monsieur François Henbic. Bon, comme souvent, c'est pas uniquement François Henbic qui a inventé le béton armé. Il y avait des gens avant lui qui avaient déposé des brevets dans ce sens au 19e siècle. Mais François Henbic, c'est le premier qui a trouvé une façon pour que le béton armé soit facilement utilisable dans les chantiers. Et il a une histoire assez sympa parce que c'est pas du tout un ingénieur. C'était un maçon.
Ah bah quand même, il y a un lien.
Oui, il y a un lien quand même, mais c'est pas un polytechnicien, alors que c'est quand même très complexe le béton armé. Et un maçon qui non seulement a inventé des procédés technologiques brillants, mais qui en plus avait une sorte de génie des affaires. Il a créé une entreprise et il a fait une pub de dingue qui a super bien marché, notamment en construisant en 1903 un super bel immeuble d'habitation en béton armé à Paris, qui existe toujours, il est au 6 rue Danton. Et à partir de là, le béton armé, avec un certain nombre d'améliorations, c'est devenu le matériau de construction moderne par excellence, en partie aussi grâce à un architecte que je suis sûr que vous connaissez, c'est Auguste Perret, qui a commencé.
La ville du Havre. À
voilà, et on va.
Le Conseil économique et social.
Le Conseil économique et social, le Théâtre des Champs-Élysées.
Mmh. J'aurais pu dire aussi tout ça. Mais parce que je laisse souvent la parole à Stéphane, comme ça, pour qu'il prenne un peu de pavage.
Oui, j'existe.
Mais il n'est pas très connu, donc bon, je lui laisse un peu le micro, mais je le savais.
Et grâce à ces constructions super prestigieuses, Auguste Perret, il a quand même rendu le béton quand même un peu cool, à ce moment-là, en tout cas. Et surtout, à la fin de la vie, à la fin de sa vie, pardon, que vous le disiez, Stéphane, il a reconstruit en béton armé l'intégralité du centre-ville du Havre, qui avait été bombardé par les Alliés pendant la guerre. Et je voudrais finir sur le Havre, parce que le Havre, c'est symptomatique de notre rapport, le mien, le vôtre, Mathieu, au béton armé.
Mais je ne sais pas si j'ai un rapport avec le béton armé.
Mais si vous en avez un.
Stéphane est inquiet.
Les Havrais, les habitants du Havre dans l'ensemble, ils ont trouvé que la nouvelle version en béton armé de leur ville était super moche. Et il faut le dire, tout le monde était un peu d'accord avec eux. Le surnom du Havre pendant longtemps, c'était quand même Stalingrad sur mer. Et puis, en 2005, le centre-ville du Havre a été placé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui, en gros, aujourd'hui, est le statut le plus cool et le plus prestigieux qu'une construction humaine peut obtenir. Et depuis, ça y est, le Havre est de nouveau cool. Et comme le Havre, c'est synonyme de béton armé, eh bien, c'est le béton armé qui est en train de redevenir cool. Aujourd'hui, au Havre, il y a des hipsters partout dans les rues qui lèvent les yeux sur les immeubles et qui s'extasient. Et les hipsters, ils renforcent encore cette coolitude parce qu'ils sont un peu comme l'UNESCO, les hipsters. Tiens, ce sont des...
Ça, cette phrase est vraiment tendue.
Ce sont des machines à transformer des choses pas cool en choses cool. Comme le fait de boutonner ses chemises jusqu'en...
Ah oui, c'était vraiment pas cool.
Truc de bolos.
Il n'y avait que Stéphane qui était
voilà,
comme ça.
Et bien maintenant, cool grâce aux hipsters. Ouais.
Et maintenant,
aussi...
Stéphane a déboutonné sa chemise. Il est toujours à contre-temps des modes. C'est quand même fou, Stéphane. Vous pouvez reboutonner jusqu'en haut.
Ah
c'est
non,
très
je peux pas, non. Dans cette vidéo.
Et donc aussi le béton armé. Et tout ça pour dire que le béton armé, c'est toujours un docker du port super costaud qui bosse 12 heures par jour. Sauf que maintenant, il rentre en boîte de nuit.
Et ça change tout.
Et ça change tout.
Vous avez déjà coulé une dalle en béton, Stéphane?
Oui, ça m'est arrivé.
Ça m'est arrivé. Du petit métier.
Dans une émission, vous voyez, papa.
Ah oui, voilà.
Pour faire plaisir.
Pour faire le clown. Merci, David Castello-Lopez.
Merci, David
Castello-Lopez.
Merci,
David
Castello-Lopez.
On retourne demain.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque jour vous transporte dans le temps à la rencontre de personnages haut en couleur qui ont fait l'histoire, chacun à leur manière. Lui aussi, il fera l'histoire, lui aussi est un personnage haut en couleur, mais pour l'instant, il se met en retrait humblement. Stéphane Bern vous raconte le destin d'un attaquant inoubliable, Marc-Antoine.
Historiquement Vôtre. Le récit.
Antoine ou Marc-Antoine, c'est un destin légendaire, une existence sans pareil.
On peut enlever la musique, elle me fait peur.
Celle d'un combattant, d'un guerrier né à Rome en 83 avant notre ère. Très jeune, Antoine s'affiche comme un beau jeune homme bien bâti. Le philosophe Plutarque écrit que sa barbe épaisse, son front large, son nez aquilin et un air mâle répandu sur toute sa personne lui donne beaucoup de ressemblances avec les statues d'Hercule.
Enfin, surtout barbe épaisse, air mâle répandu sur toute sa personne. Ça fait surtout penser à moi, Stéphane.
Non. Pas faux. Bon, enfin, calmez-vous, hein, Mathieu. Pour tempérer un peu, cette langue de vipère de Cicéron, qui ne pouvait pas le sentir, le décrit comme un imbécile aviné et débauché.
C'est plus du tout moi, là, plus du tout. Moi, je bois que du jus de canneberge.
Débauché ou pas, Antoine est en tout cas un grand fêtard, qui commence sa carrière militaire en 57 avant Jésus-Christ, en Syrie, puis en Égypte, dans la cavalerie. Soldat né, Antoine n'est jamais bien loin quand il s'agit de démolir des gens sur un champ de bataille, mais c'est aussi un chef au nerf d'acier et un tacticien hors pair. Très jeune, Marc-Antoine va se retrouver au cœur de la crise qui couve entre César et le général Pompée. Marc-Antoine choisit César.
Visiblement un nom qui vous amuse, Stéphane, je ne sais pas pourquoi.
Vous vous souvenez,
les célèbres Pompée, oui,
bah, la phrase de Clémenceau sur
Félix César. Fort.
Il se croyait César et il est mort
Pompée. Et oui. Sachant qu'il était mort dans les bras, entre guillemets, d'une prostituée.
Oui. Marc-Antoine choisit César, qu'il a repéré à Lésia, lorsque le jeune homme a réussi à stopper in extremis une sortie dangereuse et meurtrière de Vercingétorix. En 49, alia jacta est.
Les dés sont jetés.
Exactement.
Je suis latiniste de formation.
À la minute où César franchit le Rubicon avec Marc-Antoine à ses côtés, l'affrontement larvé avec Pompée vire à la guerre civile. La guerre est longue, complexe, mais un premier affrontement décisif se tient à Pharsale, en Grèce. Marc-Antoine, à qui César a confié son aile gauche, se fait une joie de défoncer tout ce qui bouge.
Très belle illustration sonore, Stéphane.
Au soir de la bataille, et largement grâce à Marc-Antoine, César perd 1200 hommes, Pompée 6000, l'équivalent de toute une légion. Et puis en 44, patatras.
Patatras ? Vous faites partie des gens qui disent patatras ?
Non, je l'ai dit, vous savez pourquoi ?
Pourquoi ?
Parce que ça faisait un peu grec.
Ah, oui,
et je me
ça.
Suis dit que j'allais jouer sur cette homonymie.
Mais pourquoi pas ?
Ben oui, parce qu'il y a Patras, vous savez, qui est un port où vous arrivez en Grèce. Le 15 mars 44, inquiet de voir César occuper un pouvoir de plus en plus personnel, 23 conjurés l'assassinent en plein Sénat. Une ère de grande confusion commence, faite de retournements de situation et d'alliances de circonstances. Il faut quelques mois pour que ça s'éclaircisse avec la création de ce qu'on appellera le second triumvirat. Ce qui symbolise un accord entre Marc-Antoine, donc, le jeune Octave, fils adoptif de Jules César, et Lépide, un autre proche de feu César. L'accord entre les trois hommes repose sur deux choses. D'abord, un partage des zones d'influence. Octave contrôle la Gaule et l'Espagne, Lépide à l'Afrique, et Marc-Antoine à tout le reste, c'est-à-dire la partie orientale de ce qui n'est pas encore l'Empire romain. Puis la deuxième chose qui réunit les trois hommes, c'est la volonté commune d'en finir avec les meurtriers de César, Brutus et Cassius en priorité. 100 000 hommes sont sur le champ de bataille. D'un côté, les troupes d'Octave et de Marc-Antoine, de l'autre, celles des conjurés. La bataille se déroule en deux temps. Marc-Antoine défonce le dispositif de Cassius, mais Brutus l'emporte sur Octave et il faut toute l'audace et l'imagination de Marc-Antoine pour renverser la situation et démolir Cassius qui finit par se suicider. 15 jours plus tard, deuxième round, au même endroit. C'est longtemps indécis, mais Marc-Antoine finit par anéantir ceux qui restent. Et cette fois, c'est Brutus qui se jette sur sa propre épée. La guerre civile n'est pas terminée, mais on commence à y voir plus clair. Et Marc-Antoine, lui, il est au top. À 40 ans, c'est un des deux ou trois hommes les plus puissants du monde romain. Seulement voilà, le succès, ça finit toujours par s'arrêter.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Historiquement vôtre, 2 heures d'histoire sans se la raconter continue. Je ne vous félicite pas, Stéphane, vous nous tenez en haleine avec le destin de Marc-Antoine en nous expliquant qu'il a réussi à pomper tout ce qu'il voulait. Tout ça pour nous dire que ça finit mal.
Oui, pour comprendre comment Marc-Antoine va mal finir, effectivement, en menant la bataille de Troie, revenons un peu en arrière. Au sein du triumvirat où tout se complique entre Lépide, Marc-Antoine et Octave.
C'est un peu le bon, la brute et le truand, votre truc, Stéphane.
Bon, je vois pas très bien dans les fois qui fait le bon,
oui,
surtout. Il y a beaucoup de brutes. Quoi qu'il en soit, Lépide est vite mis de côté et on passe d'un plan à trois à un duel entre Octave et Marc-Antoine qui ne peuvent plus se voir en peinture. Le premier tient l'ouest du monde romain, tandis que Marc-Antoine, lui, dirige tout l'est de la Méditerranée. Mais le destin de Marc-Antoine bascule lorsqu'il s'installe en Égypte, qui est aux mains de Cléopâtre, alors que lui finira dans ses bras. On a écrit bien des choses sur cette rencontre immortalisée, vous vous souvenez, au cinéma, par le film Cléopâtre,
ça, j'ai vu.
De Mankiewicz, avec Richard Burton, Elizabeth Taylor. Mais avant d'être deux amants flamboyants, Marc-Antoine et Cléopâtre sont d'abord deux grands fauves politiques qui ont le sens des réalités. Et la réalité, c'est que l'Égypte est indispensable à Rome, qui compte sur elle pour se fournir en blé.
La céréale, pas l'argent.
Évidemment, Mathieu, mais Marc-Antoine n'a pas anticipé la puissance de la propagande d'Octave qui s'attaque à sa réputation. Marc-Antoine est un pantin dominé par une sorcière vicieuse, Cléopâtre, fait-il courir le bruit. Et Marc-Antoine, selon lui, a trahi Rome et ses traditions pour des plaisirs honteux et des dieux bizarres à tête de chien ou de faucon, et qu'il se vautre dans la débauche, l'alcool, la luxure, loin des vieilles vertus romaines.
Détailler les plaisirs honteux.
Je ne peux pas, nos auditeurs sont en train de prendre le goûter. Octave rappelle enfin que Marc-Antoine l'a personnellement trahi, puisqu'il s'affiche avec Cléopâtre alors qu'il est marié à sa propre sœur, Octavie.
Vous savez, depuis la semaine dernière, à cause de notre émission, je me méfie beaucoup des sœurs, Stéphane.
Vous avez raison. Une nouvelle guerre civile commence, mais abandonnée par leurs alliés, les deux amants se retrouvent vite piégés. La suite est une tragédie en deux temps. Persuadé que Cléopâtre s'est tué, Marc-Antoine se suicide en 30 après Jésus-Christ, le 1er août. Il a 53 ans. L'Égypte devient romaine et Octave lui rentre triomphante à Rome où on lui accorde le titre d'Auguste, c'est-à-dire d'empereur. L'Empire romain commence là où Marc-Antoine finit.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour mieux comprendre ce Marc-Antoine, on accueille une spécialiste. Bonjour Virginie Giraud.
Bonjour.
Bonjour Virginie, vous êtes docteur en histoire. Vous avez notamment écrit « La véritable histoire des 12 Césars » paru aux éditions Perrin. C'est vrai que quand on pense à Marc-Antoine, l'image nous vient d'un grand vaincu, un osseur, un débauché, un traître à la patrie, un immense tyran. Au fond, est-ce que c'est loin de la réalité ou c'est ces détracteurs qui ont... On dit toujours l'histoire est écrite par les vainqueurs.
Et là, c'est exactement le cas. Ce sont effectivement les vainqueurs qui ont écrit l'histoire. Et c'est Octave, donc le futur empereur Auguste, qui a lancé toute une propagande contre Marc-Antoine pour lui donner cette image déplorable. Après, comme vous l'avez très bien dit, Marc-Antoine était sans doute un très bel homme. Hein, l'archétype de l'Italien parfait, beau, grand, musclé, sexy, en fait, un vrai homme.
On sent que c'est clairement votre type d'homme, en tout cas.
C'est clairement mon type d'homme.
On sent que le petit blond Maigrelet n'a pas d'intérêt pour vous, Virginie Giraud. Vous nous révélez beaucoup sur vous dans cette émission aussi.
Mais il était puissant aussi.
C'est l'un des
hommes les plus puissants. Mais est-ce qu'on dit aussi qu'il était ambitieux, fin stratège et tacticien hors pair?
Il avait des qualités.
Donc il avait des qualités. Et puis plus tard, qu'on était fou.
Oui, plus tard, qu'on était fou. Effectivement, c'était un grand militaire, un homme qui n'a pas peur du terrain et qui n'a pas peur de la mort. Et ça, à Rome, c'est très valorisé.
Eh bien, on va continuer de parler de ces meilleurs attaquants qui sont les héros de notre émission du jour. Et on va parler de ce guerrier romain, Marc-Antoine, qu'on réhabilite enfin.
Enfin.
Vous voyez, avec Virginie Giraud.
Moi, j'en dormais pas la nuit, le fait qu'il soit pas réhabilité.
Non, mais au fond, moi, j'avais l'image du film Cléopâtre, vous savez.
Ah oui, là, forcément.
Oui,
c'est une cliché.
C'est pas des clichés qui font un bon film. Allez, on se retrouve dans un instant.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
On parle de Marc-Antoine aujourd'hui. Il a attaqué les paysans entiers, mais il a conquis aussi, et notamment le cœur de Cléopâtre. Et pour en parler, nous sommes toujours avec notre invité, docteur en histoire, spécialiste des véritables histoires des 12 Césars, Virginie Giraud. C'est vrai que la relation entre César et Cléopâtre, c'était vraiment une histoire d'amour romantique et tragique, une passion réelle, ou plutôt c'était une manœuvre politique. Quelle était les chroniqueurs de l'époque.
Qu'est-ce qu'on disait Paris Match, quoi, à l'époque, en gros.
Alors, Paris Match, à l'époque, disait que Cléopâtre n'était pas une fille fréquentable, mais ça, voilà, ça fait partie
des
clichés misogynes.
Pourquoi elle
n'est
pas fréquentable?
Parce que c'est une femme sensuelle qui exerce le pouvoir, et les Romains sont des misogynes terribles. Donc, si une femme exerce le pouvoir, c'est que forcément, elle est mauvaise et qu'elle va faire partir l'Empire à volo. Donc, on se méfie d'elle. En réalité, c'est une vraie politicienne, très fine, très intelligente, et c'est une femme sensuelle qui s'assume pleinement. Donc, la relation à Jules César, c'est une forme de mentorat, d'une certaine manière. Il est beaucoup plus âgé qu'elle, il lui donne des conseils, il la soutient, il la ramène sur le trône et défait son frère Ptolémée XIII pour elle, pour l'installer. Et elle, en échange, évidemment, elle le dragouille un peu. Quoi.
Non, mais ce qui est fou, c'est que, elle se tape César et après elle se tape Marc-Antoine.
Mais attendez, César, il n'était pas gay, je suis désolé, mais enfin. Ah non, ça, c'est une légende.
Une légende.
Ah bon?
Ah oui.
Ah, autant pour moi, alors, je pensais que c'était. D'accord.
Non, mais ça, c'est parce que vous avez vu 2 heures moins le quart.
C'est parce que j'ai vu 2 heures moins le quart. Oui, exactement, exactement. Un très bon film.
Regardez.
Très bien informé historiquement, Stéphane. Avec Coluche,
on vous voit plus dans les soirées.
Bon, alors ça, c'est une info européenne. César n'était pas gay. Il s'est vraiment tapé Cléopâtre.
Oui, Cléopâtre la surnommait Bouche d'Or. mort parce que c'est pas parce qu'elle parlait plusieurs langues. Donc, ah, je vous laisse imaginer.
Oh Virginie, vous allez loin, mais je sens que ça plaît à Stéphane qui va tenter de se remettre. Stéphane, redressez-vous, relevez-vous, rapprochez-vous du micro. Continuons de parler de Bouche d'Or, qui a aussi bien connu Marc-Antoine.
Et Marc-Antoine, voilà, lui, a été fou d'elle aussi après.
Ah oui, encore plus que Jules César, sans aucun doute. Lui, il est totalement sous son charme. Alors, il se rencontre à Tars, en Turquie. Il convoque Cléopâtre parce qu'il a besoin de son armée pour aller défaire les Perses qui sont toujours en train de mettre le bordel du côté de l'Orient.
Mais ils avaient besoin l'un de l'autre.
Tout à fait.
Lui avait besoin d'elle contre les Perses et elle, elle avait besoin de lui en approvisionnement.
Exactement, c'est un échange, c'est du donnant-donnant. Et même, elle va aller jusqu'à lui demander de faire assassiner sa petite sœur Arsinoé, qui est littéralement gardée prisonnière par les Romains au temple d'Éphèse. Mais elle ne veut pas que Arsinoé revienne en Égypte et lui prenne son trône. Donc elle va négocier aussi.
Donc on vous dit que c'est une fine politicienne, elle est cruelle aussi.
Non, mais entre Ptolémée, on se tue tous les uns les autres.
Ensuite, on se tue.
C'est ça.
Mais c'est vrai que la relation qui est intéressante aussi, c'est entre Marc-Antoine et Octave. C'est une vraie rivalité d'hommes.
C'est une vraie rivalité pour le pouvoir. Parce qu'ils sont tous les deux les héritiers de Jules César. Octave est son héritier biologique, son arrière-petit-neveu. Il a été adopté par lui. Il est adoubé, en fait, pour prendre sa suite. Or, Marc-Antoine se sent lésé parce que Marc-Antoine est son héritier militaire. C'est l'homme qui l'a secondé en permanence sur les champs de bataille, à Rome, pendant qu'il était dictateur. Donc, il ne trouve pas normal que le testament de César lui donne le petit rival, le petit gamin de 20 ans, là, bon, certes qu'il a du talent, mais forcément, ils vont se battre tous les deux pour avoir Rome.
En tout cas, merci Virginie Giraud. De chaque fois que vous êtes avec nous, on comprend beaucoup mieux.
Moi, quand on dit, qu'il mettait le bordel chez les Perses, je comprends beaucoup mieux ce genre de phrases que des phrases très doc. Non, c'est vraiment toujours super avec
vous,
Virginie Giraud.
La véritable histoire des 12 Césars aux éditions Perrin. Merci beaucoup.
Merci.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
C'est dans une joie teintée même d'allégresse qu'avec Mathieu Noël, nous vous accueillons chaque après-midi sur Europe 1 pour 2 heures de bonne humeur et de découverte historique.
Et oui, l'histoire sans se la raconter, telle est, vous le savez, notre devise. Mais comme vous le savez aussi, avec Stéphane, nous ne sommes pas de bois. Nous sommes des hommes avec leurs envies, leurs besoins. C'est pourquoi nous avons eu envie de vous proposer une séquence qui va plus loin, qui nous entraîne dans les coulisses et parfois même les chambres à coucher des grands noms de l'histoire pour voir un peu ce qui s'y passe. Seulement voilà, avec Stéphane, timide comme on est, on n'aurait jamais osé y aller tout seul. On avait besoin d'un guide qui n'aurait pas froid aux yeux. On l'a trouvé. Bonjour Clémentine Portier-Keltenbach.
Oui, ben les garçons, vous devriez pas fanfaronner là, parce que ça va être l'humiliation pour vous là.
Parce que
là, vous voulez de l'attaquant, de la testostérone. Je vais vous en donner, mais vous n'allez pas en sortir indemne. Parce que, voyez-vous, dans une précédente émission, je vous avais parlé des mères de famille prolifiques. Vous vous souvenez de l'accouchement à la reine, de la reine Victoria, etc. Bon, mais donc il n'est que justice de parler aujourd'hui des pères prolifiques, même si ce n'est pas exactement la même épreuve de devenir père que mère. Comme le disait Pauline Bonaparte, des enfants, je préfère en commencer 100 qu'en terminer un seul. Et Lady Diana aurait ajouté, si elle avait connu Pauline Bonaparte, si les hommes devaient accoucher, aucun d'eux ne dépasserait le premier enfant. Par contre, évidemment, quand il s'agit de les faire, alors là, les hommes se pressent au portillon. Or, en la matière, le recordman toute catégorie, donc le père le plus prolifique de toute l'histoire de l'humanité, figurant d'ailleurs comme tel dans le Guinness Book des records, eh bien, c'est le sultan marocain Moulay Ismail, vous le connaissez bien, Stéphane, contemporain de Louis XIV, né en 1646, mort en 1727 à 81 ans, après 55 ans de règne. Donc, c'est vraiment l'alter ego au-delà de la Méditerranée de Louis XIV. Eh bien, tenez-vous bien, les garçons. Et là,
je
sens vraiment, vous allez tomber de l'armoire. D'après le Français Dominique Buneau, qui séjourna au Maroc durant son règne, Moulay Ismail était le père de 1171 enfants.
Il avait combien de femmes pour faire tous les enfants?
Alors, je comprends que pour vous, ça soit un choc. Vous vous dites, est-ce que c'est possible? Ce fringant sultan a-t-il passé sa vie à faire l'amour dans son harem pour réaliser un tel palmarès? Eh bien, pas forcément, ont répondu deux chercheurs de l'université de Vienne qui se sont penchés sur la question. Alors, selon eux, et puis, si vous voulez, nombreuses familles, il est encore temps d'y penser, il a suffi que le sultan ait des relations sexuelles tous les jours pendant 32 ans, c'est pas excessif, pour que cette information sur les 1171 enfants soit véridique. Les deux chercheurs estiment qu'entre 65 et 110 femmes seulement auraient suffi au sultan pour avoir autant d'enfants.
Pourquoi vous avez l'air sceptique, Stéphane?
Non, parce que
les chiffres
sont
là.
Non, je comprends ça, mais ça veut dire que tous les jours,
Faire l'amour une fois par jour.
Non, mais Stéphane, il vit comme un moine dans son, collège militaire.
Mais Stéphane, il faut vivre. Un jour sans faire l'amour est un jour perdu, Stéphane.
Bon, non, mais il y a des jours où on a mal à la tête.
Le sultan, il n'avait pas l'aspirine.
Madame n'a jamais la migraine.
Eh bien, écoutez, en tout cas...
Je lui sors l'aspirine dans ces cas-là.
Moulay Ismaïl, lui, était d'une très grande vigueur physique. Il était infatigable, toujours selon le même Buneau.
Et selon
celle qui disait « j'ai la migraine », il leur coupait la tête. Et là, ça déradicalise
moins mal à la tête.
C'est tout à fait exact. Enfin, Buneau, lui, considère que Moulay Ismaïl avait près de 500 épouses et maîtresses. Oui. Donc beaucoup plus que les 65 à 110 nécessaires pour faire 1771 enfants.
La moyenne des Français, c'est vrai.
Alors, allez savoir pourquoi, ça je n'ai pas compris. Le Guinness Book des records ne lui en reconnaît que officiellement que 888. Ah oui. Pourquoi?
Quand même
santé. Alors, inutile de vous dire que, bien sûr, sur la vie privée de Moulay Ismaïl, tout ce qu'on croit, ça va voir, relève beaucoup du ragot. La vie du sérail, c'est une chose sacrée, de mystère et on a peu de documents. Alors, évidemment, il a eu de nombreuses concubines, mais le Maroc est un pays de tribus. Donc, quand vous êtes un cheikh et que vous voulez faire plaisir au sultan, vous lui donnez en mariage une de vos filles. Bon, et cette tradition va amener au sérail de très jolies filles, parfois très instruites. Par exemple, la seconde femme de Moulay Ismaïl, Leila Kenata, originaire du Sahara, elle a gouverné le pays pendant 25 ans. Donc, vous voyez, là, on est quand même loin du cliché du harem où on passe son temps à faire des galipettes. Alors, pour ce qui est en plus des femmes légitimes, Moulay Ismaïl respectait strictement le Coran. Donc, il n'en a eu que 4. Et sa première femme, qui s'appelait la sultane Zidana, parce que son fils aîné s'appelait Zidane, c'était une ancienne esclave, une femme noire, énorme, ressemblante à une tour, nous dit Buneau. Donc, vous voyez, là aussi, on est loin du cliché, là. Oui. Hein, bon, alors, là, on retrouve quand même...
Je ne sais pas ce que Zidane vient faire là-dedans. C'est qu'on est dans les attaquants.
C'était le nom du fils aîné de Moulay Ismaïl, mon cher. C'est peut-être pour ça que le footballeur porte ce nom, d'ailleurs. Et en tout cas, là où on se rapproche un peu plus du cliché, enfin d'Angélique et le sultan, c'est avec la troisième femme qui s'appelait Leila Jeannette. C'était une Anglaise. Et alors Buneau raconte, parle en ces termes de cette Anglaise, Lady Jeannette, prise à l'âge de 15 ans et dont il surmonta la constance en la faisant cruellement fouetter et en lui faisant mettre les pieds dans l'huile bouillante pour la rendre mahométane. Voilà ce que nous dit Jean Buneau. Enfin écoutez, les nuits d'amour du sultan, ça doit être fantastique, mais songez quand même une minute dans le harem avec les 1771 enfants. Alors, on espère que Moulay Ismaïl avait pu se procurer utilement le fameux ouvrage « J'élève mon enfant sans me salir les mains ». En tout cas, ça, c'était un attaquant, messieurs.
Ah oui, c'était un attaquant.
1171 enfants.
Mais comment ça s'est passé au moment
tous les Marocains descendent de lui aujourd'hui.
Nous, on descend bien tous de Charlemagne. Voilà, il n'y a pas de raison. Oui, sans doute, tous les Marocains descendent de lui.
Et au moment de l'héritage, ça s'est passé comment? Ils étaient pas
tous
légitimes.
Il y a eu de la castagne, parce qu'en réalité, on lui a reconnu 80 fils. Mais souvent, ça se passe mal. Vous savez, ça, c'est comme Soliman le Magnifique. Il a fait assassiner son fils. Et après, c'est un gros naze qui s'est retrouvé sur le trône à sa place.
Vous nous parlerez un jour de Soliman le Magnifique.
En tout cas, merci Clémentine. Comme toujours, vous nous faites pénétrer avec délectation dans les coups de l'intimité de l'histoire. En tout cas, on peut vous réécouter en podcast sur toutes les applis, sur le site europe1.fr. Écoutez ça la nuit, si vous êtes insomniaque, vous verrez, ça fait du bien. Et vous restez avec nous pour la séquence sadicomique. Notre émission, celle qu'a conçue le perfide Mathieu Noël, évidemment.
Il n'y a rien de perfide, Stéphane, à vous opposer à Clémentine sur un quiz d'histoire. Vous avez l'air tellement sûr de vous quand vous présentez Secret d'Histoire. Je suis persuadé que même sans vos fiches, vous allez faire des étincelles. Enfin, cela dit, peut-être plus façon Jeanne d'Arc.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui vous file la banane tout en renforçant vos neurones ou du moins votre culture générale. Chaque après-midi, avec Stéphane Bern, on vous raconte trois destins de personnages ayant vécu à des époques différentes mais partageant un point commun. Aujourd'hui, les grands attaquants de l'histoire. Grâce à Stéphane, vous saurez tout sur Marc-Antoine et Napoléon. Grâce à moi, vous saurez tout sur Cantona. On verra ce qui vous servira le plus dans les dîners. Mais pour l'heure, il est temps de départager nos deux pointures de l'histoire, Clémentine Portier-Kaltenbach et Stéphane Bern. C'est l'heure de Bern to be alive. Un quiz fratricide mais néanmoins convivial, car contrairement à l'hostilité qu'ils affichent l'un envers l'autre pour faire le show, sachez que dans la vie, Stéphane adore Clémentine et réciproquement, n'est-ce pas Clem ?
Il est la tête tranchée.
Bien, jour. Question 1 pour vous, Stéphane. La fameuse et indémodable blague du coussin péteur est très ancienne. Je vous ai promis, un quiz où on irait vraiment au cœur de l'histoire.
C'est très historique.
C'est quoi notre éminemment,
éminemment historique. Vous ne l'avez pas mis dans le Trivial Poursuite, cette question-là ? Parce que je rappelle que Clémentine a conçu les questions françaises.
Celui sur Paris.
Elle vient de dire en latin, jusqu'où descendra-t-il ?
Et c'est, comment vous l'avez dit ?
Cusque non descendet, ce qui est...
la devise à l'inverse de... voilà, c'est une parodie de la devise de Nicolas Fouquet. Jusqu'où montera-t-il ?
Ah oui, ah, c'est beau.
Jusqu'où ne montera-t-il
ne
pas ?
Ne montera-t-il pas ? Ça, j'essaierai de la placer dans un dîner.
Négative, hein.
Ne nous détournons pas de l'essence de la question.
Allez-y,
qui nous
votre coussin péteur.
La
allez.
Fameuse et indémodable blague du coussin péteur est très ancienne. Elle date de l'Empire romain. Vrai ou faux ? Stéphane.
Écoutez.
Comment répondre de manière très sérieuse à une question très con ?
Parce que, franchement, moi je dirais oui. Parce que je suis sûr qu'on savait rire.
Oui, mais enfin, est-ce qu'on avait des coussins gonflants ?
Non, on fêtait vraiment. Et donc,
oui, mais là, je demande, attention, parce que j'imagine que ça a été fait la blague.
Vous avez parlé de coussin péteur. Il faut que le caoutchouc existe. Donc c'est forcément la fin du 19e, le coussin péteur.
Caoutchouc,
comment voulez-vous gonfler
matériaux.
Ah, peut-être un coussin péteur comme de la toile de montgolfière. Alors ça pourrait être le 18e.
Il faudrait que les montgolfières existent alors, à ce moment-là. Stéphane.
Moi, écoutez.
Vous avez envie d'y croire. Je sens que vous avez envie d'y croire.
Moi, j'ai... De toute façon, planter pour planter, vous avez vu
oui,
où j'en suis.
Oui, ouais. Vous pouvez répondre ce que vous voulez.
Je peux répondre ce que je veux.
Et vous répondez.
Et ben, je réponds oui. Et ben, je suis sûr que ça...
Quand vous répondez n'importe quoi, c'est là que vous êtes bon, Stéphane. Oui, c'est vrai. C'était même la blague préférée de Héliogabal, empereur romain de 218 à 222. Il remplaçait les coussins de certains de ses invités par des sacs de peau de bouc remplis
ah,
d'air.
Ah, mais oui, des vessies de porc, ça aurait pu être aussi des sacs de peau de bouc. Ah, bien sûr.
Vous savez, chaque fois... Si je l'écoute, je vais en enfer.
Là, là. Oui, vous avez...
Je suis trop rationnel, moi,
oui,
Stéphane.
Alors, il ne faut pas l'être. Il faut répondre n'importe quoi. De toute façon, c'est n'importe quoi, ce que dit Mathieu. Alors, autant répondre
c'est
n'importe
vérifié.
Quoi.
C'est, oui, c'est vérifié,
le coussin péteur en peau de bouc, le clapet anal du mammouth.
Question
oh non, moi, je vais vous quitter, les
Clémentine,
garçons,
hein. Question numéro 2. Le premier homme qui a sauté en parachute s'est marié avec la première femme qui a sauté en parachute. Vrai ou faux ?
Oui, alors c'est tout à fait exact. C'est Garnerin. Et il a épousé Garnerin, qui était au premier sens du terme, la première hôtesse de l'air et elle a fait la première démonstration de saut en parachute au parc Monceau. Donc oui, c'est exact, c'était le ménage Garnerin.
C'est effectivement une bonne réponse et comme vous avez déjà donné l'explication, je n'ai plus à le faire. Stéphane, troisième question. Avec le temps, la basilique du Sacré-Cœur à Paris a blanchi de plus en plus. Est-ce que c'est vrai ou faux ?
Parce qu'elle est en pierre dessus.
J'ai remarqué, effectivement.
Elle est dans une pierre qui exude du calcin. C'est une pierre de suip qui a cette capacité particulière à blanchir.
Nous assistons à quelque chose de rare dans les quiz. On n'a jamais vu ça pendant l'histoire de questions pour le chemin. Un vol de bonnes réponses. C'est-à-dire qu'elle argumente et elle donne... Je lui accorde un point. C'est vrai. Et Stéphane aussi. Mais vous avez un point tous les deux parce que c'est pas possible. Elle nous dit, elle nous explique.
Elle nous explique.
Clémentine. La construction débute en 1875 et s'achève en 1923. Les pierres utilisées viennent de Seine-et-Marne et sécrètent une substance blanche du calcin. Mais c'est écrit dans ma réponse.
Oui,
qui avec la pluie
ça au coussin
et
péteur,
le soleil
excusez-moi.
Font que l'édifice, année après année, est de plus en plus blanc et de plus en plus dur. Un peu comme les dents de Stéphane. Question 4. C'est la question qui, chaque jour, vous départage.
Mais moi, je traverse vraiment une mauvaise passe dans ce quiz-là.
3 décembre 1992, date historique, c'est la première fois qu'un SMS est envoyé.
Pardon, mais 3 décembre
1992,
oui.
Date historique, c'est la première fois qu'un SMS est envoyé. Mais que disait ce SMS ? Carpe diem, joyeux Noël ou Théo ? Silence pesant dans le studio. Stéphane et Clémentine s'observent. Ce sont des mimics, parfois salaces. Nous expliquant peut-être que leur premier SMS à eux n'était pas aussi naïf que Carpe diem, joyeux Noël ou Théo.
Oh, ça doit être Théo, non ?
Stéphane ?
Moi, je dirais Carpe Diem ou Joyeux Noël. Mais...
Oui, bah, vous devez choisir, Stéphane. Donc, en fait, vous ne pouvez pas dire, ah bah oui, moi, je dirais que c'était Carpe Diem, Joyeux Noël ou Théo. Non,
bon,
c'est un des
un
trois.
Un 3 décembre, on n'a aucune raison de souhaiter Joyeux Noël. Donc, c'est Carpe Diem.
Excellent raisonnement. C'est une mauvaise réponse, Stéphane. La bonne réponse était Joyeux Noël.
Un 3 décembre,
figurez-vous.
Oh, bah,
c'est, on anticipe. C'est comme en janvier, on a le droit de présenter ses vœux jusqu'au...
On ne sait pas quand le SMS va
jusqu'à
arriver
la fin
à son destinataire.
Oui, à l'époque, ça prenait du temps.
Oui, mais elle disait Théo.
Donc elle a pas une petite,
C'était la question rapidité ou c'était une question pour moi ?
C'était une question, mais de toute façon, vous avez eu faux puisque vous avez dit Théo.
Oui, mais c'est pas grave, j'avais pas à répondre si c'était une question
vous,
de Stéphane.
C'était une question pour vous deux, vous avez perdu lamentablement.
Alors, bon, je jette l'éponge.
Jusqu'en 1999, le SMS reste une façon interne de communiquer en entreprise. Le premier SMS a été envoyé sur un téléphone depuis un ordinateur par Neil Papworth qui voulait fêter Noël avec ses collègues. Et effectivement, il s'y est pris un peu en avance. Qui remporte le quiz ? C'est une fois de plus Clémentine, Portier, Kaltenbach, Stéphane.
Je prends les auditeurs à témoin.
Il faut gagner le quiz quand même, Stéphane. Là, ça devient gênant un petit peu. Hein. Au début, c'était marrant, on s'amusait.
Pardon,
mais là...
pardon. Oui, on va remettre les choses quand même là où elles doivent être. Clémentine est historienne.
Oui.
Non, pas du tout.
Vous n'êtes pas historienne ?
Bon, non, pas plus que vous.
Oh, je vous présente comme ça tous les jours, moi. Hein. On va dire que vous êtes historienne, c'est ce que vous avez dit à la rédaction.
Chroniqueuse histoire, dirons-nous.
Oui, oui.
Oui, et vous aussi.
Ouais, raconteur donc, d'histoire.
Oui, bah, raconteur d'histoire, la prochaine fois, vous avez intérêt à gagner.
Oui, enfin, Coussin Péter, franchement.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour Historiquement Vôtre, l'émission où l'on vous raconte l'histoire, mais sans jamais se la raconter.
Oh, ça serait mal de connaître, Stéphane, nous ne sommes qu'humilité.
Bah, surtout vous.
Oui.
Eux aussi ont le triomphe modeste, encore que. Mais la défaite mauvaise, ce sont les meilleurs attaquants de l'histoire que l'on évoque cet après-midi sur Europe 1 avec le Romain Marc-Antoine. Place maintenant à Napoléon, l'empereur sans peur. Et sans reproche. Et puis, chaque jour, vers 17h30, hein, vous dresserez le portrait, Mathieu, d'un homme à 99% vrai. Un autre attaquant proche de nous, un homme épatant.
Ce n'est pas un homme, Stéphane. C'est Eric Cantona, comme il explique lui-même dans le film de Ken Loach.
Ah oui, c'est vrai.
Il fait partie des rares Français à être plus adulé en Angleterre que vous. Vous vous rendez compte, Stéphane ? Plus adulé que
facile,
vous.
C'est facile, c'est facile.
Ah non, vous êtes une star là-bas.
Non.
Stéphane, peu à peu, je sens que vous prenez goût à mon regard un brin décalé sur l'histoire. C'est vrai, on peut le dire maintenant. Au début, ben, les premiers jours, quand vous arriviez en studio, vous n'étiez pas ravi de me voir.
Que fait ce clochard ici ?
Et puis finalement, Stéphane, vous êtes fait à ma présence.
Mais pas à votre odeur. Allez, au programme de cette deuxième heure, également pour comprendre, toujours en s'amusant, comment eh bien, notre passé éclaire notre présent. Olivier Pouls, notre spécialiste de la cuisine, la bonne chère, nous raconte l'histoire des recettes. Et aujourd'hui, on va parler de la confiture. Et parce que l'histoire, c'est aussi des mots, j'aurai, comme tous les jours, le mot de la fin. Je vous dirai comment a été inventé... vous savez ce qui a permis d'envoyer le premier SMS ? Un ordinateur.
Vous n'avez pas digéré votre défaite dans le quiz ?
Absolument pas, je n'ai pas digéré du tout.
Programme alléchant s'il en est, mais je vois mon Stéphane qui trépigne. Je crois qu'il a hâte de vous parler d'un de ses personnages préférés de l'histoire, l'attaquant avec un grand A, Napoléon, par Stéphane Bern, le triomphateur de Iéna par le roi des Vérandas. C'est tout de suite sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Physique banale. De petite taille, origine modeste, il est celui qui, par son exemple, a donné de l'espoir à Stéphane Bern, qui vous raconte à présent, dans un juste retour des choses, le destin d'un des plus grands attaquants de l'histoire de l'humanité, Napoléon Bonaparte.
Historiquement vôtre. Le récit.
Napoléon est effectivement l'un des plus grands stratèges de tous les temps, même ses pires ennemis l'admiraient. Von Clausewitz, théoricien de la guerre, officier prussien qu'il a combattu à plusieurs reprises, disait de l'empereur qu'il était le dieu de la guerre en personne. Aujourd'hui encore, on continue d'étudier dans toutes les écoles de guerre du monde quelques batailles légendaires, d'Arcole à Wagram, des pyramides à Austerlitz. Pour vous donner une idée, Napoléon, au soir de sa vie, c'est 45 batailles pour 38 victoires. Souvent légendaire.
Je comprends votre enthousiasme, Stéphane, mais entre Trafalgar et Waterloo, il y a eu quand même quelques gamelles légendaires aussi dans la liste. Hein.
Oui, bien sûr, Mathieu, on y reviendra. Vous êtes un mauvais esprit, je trouve.
Je suis là
pour incroyable
ça.
Quand même. En attendant, c'est intéressant de voir comment le fils d'une famille de notaires d'Ajaccio finit par se tailler une telle existence, même si on sait que son père était député de la noblesse de Corse. C'est pas non plus
n'importe qui.
Pas si modeste que ça. Sur le papier, rien ne prédestinait pourtant le jeune Napoléon et di Buonaparte à un destin pareil. Quand il naît, le 15 août 1769, la Corse est tout juste française. La République de Gênes l'a cédée à Louis XV un an plus tôt. Toute sa vie, Napoléon garde d'ailleurs un accent italien prononcé en français, langue qu'il apprend à toute allure lorsqu'il arrive au collège militaire d'Autun. Et ça démarre plutôt mal parce que ses camarades se moquent de ce petit Corse tout maigrichon qui écorche la langue française. Pourtant déjà, le tacticien perse au collège royal des militaires de Brienne-le-Château, un matin d'hiver, on raconte qu'il prit la tête d'une partie des écoliers lors d'une célèbre bataille de Boule de Neige.
C'est la première des 45 batailles.
C'est la première victoire. En fait, vous savez, j'ai une gravure qui représente ça, c'est tout à fait apocryphe. Ça n'a... Parce qu'il est représenté en empereur au moment où il est soi-disant un collégien, si vous voulez, en train de diriger la bataille de Boule de Neige. Enfin bref. Pour le début de la vraie grande aventure napoléonienne,
Il faudra attendre 1796, Mathieu.
Bien sûr.
Fini l'Ancien Régime, la Révolution est bien avancée et c'est le Directoire qui dirige le pays. Mais le reste de l'Europe n'a pas renoncé à l'idée d'en finir avec la France révolutionnaire.
Oui, là, c'est plus des boules de neige qu'on s'en va en travers de la gueule.
Ah bah oui, pas vraiment. En 1796, Bonaparte, relativement inconnu, transpire l'ambition. Il prend la tête de l'armée d'Italie, une mission qui consiste surtout à faire diversion. La grande offensive, c'est en Allemagne que ça se passe. Sauf que Bonaparte fait des merveilles. En quelques mois, Bonaparte écrase 4 armées autrichiennes, donne à la France une partie du Piémont, crée 2 républiques en Lombardie, occupe toute l'Italie jusqu'au Tibre et se permet de signer une série de traités avec les rois de Sardaigne, de Parme, de Naples et de Rome.
Gagner, c'est bien, mais signer des traités tout seul, ça n'énerve personne du côté de Paris, ça ?
Oh que si ! Et c'est pour ça que le Directoire envoie Napoléon en Égypte en espérant faire coup double. Sur le plan stratégique, le but est de couper la route des Indes et donc les lignes d'approvisionnement de l'Angleterre. Mais surtout, ça permet d'éloigner un intrus qui gêne. On envoie Bonaparte loin de la métropole.
Et comment il réagit à ça, Bonaparte, à l'époque ?
Ben, c'est un attaquant. Donc, comme d'habitude, il attaque. Le 21 juillet 1798, en Égypte, il remporte la bataille des pyramides. Il organise ses troupes en carré, une nouveauté, et taille en pièces une armée de mamelouks turcs. Il fait au passage preuve d'un autre talent, celui de la propagande.
Ah.
C'est lui qui rebâtit sa victoire bataille des pyramides pour marquer les esprits, alors que l'affrontement n'a pas du tout eu lieu au pied des pyramides. En position de force, Bonaparte tente et réussit le coup d'état de 18 Brumaire en 1799. Il renverse le gouvernement du Directoire. C'est le consulat. Et c'est bientôt l'Empire, en mai 1804, ce qui ne plaira pas à Beethoven.
Oui, c'est vrai.
En France, l'empereur Napoléon n'a donc plus de rival.
En revanche, en Europe, il en a 2-3.
Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Toutes les grandes puissances, Angleterre en tête, se sentent menacées. Si je dois piocher dans la longue suite de batailles remportées par un Napoléon au sommet de son art, parlons d'Austerlitz. Le soleil d'Austerlitz en décembre 1805, la plus éclatante, la bataille des 3 empereurs, Napoléon, le tsar Alexandre Ier de Russie et l'empereur d'Autriche François II. Napoléon est en infériorité numérique, mais là, coup de génie. Il dégarnit son aile droite pour piéger les Russes et les Autrichiens en les poussant à attaquer.
Enfin, moi,
dans la foulée, Napoléon lance toutes ses forces au centre du champ de bataille. La victoire se solde par la dissolution du Saint-Empire romain germanique, qui remontait tout de même au Xe siècle, vous imaginez. Et il crée la Confédération du Rhin ensuite. Ah, et puis il y a Iéna aussi. L'année suivante, en octobre 1806, elle est moins célèbre qu'Austerlitz, et pourtant, elle sidère le monde entier. L'armée prussienne, alors qu'elle flanquait la pétoche à l'Europe tout entière, est tout bonnement écrasée. Heinrich Heine, le poète, immense poète allemand, écrit « Napoléon a soufflé sur la Prusse, et la Prusse cessa d'exister ». Le soir, le grand philosophe Hegel, c'est toujours sympa l'après-midi sur Europe 1 de citer du Hegel, croise par hasard Napoléon.
C'est la première fois que ça arrive. Hein.
Ah bon ? Oh, moi j'ai l'habitude, je fais ça tous les après-midi au moment du thé. Croise par hasard Napoléon dans les rues d'Iéna. La nuit même, il écrit à un ami. J'ai vu l'empereur, cette âme du monde, sortir de la ville. C'est une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici sur un point, assis sur un cheval, s'étend sur le monde. Et le domine.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Historiquement vôtre continue. Aujourd'hui, nous traversons les siècles à la rencontre des grands attaquants de l'histoire. Vous nous aviez laissé avec Hegel en plein délire de fan, Stéphane, conquis par Napoléon. Hein. Il s'était peut-être emballé un peu vite.
Oui, Mathieu. Il y a encore de grandes victoires comme à Wagram. Mais petit à petit, les premières fissures apparaissent. Il y a cette offensive contre la Russie en 1812. Napoléon est le premier à payer cher une leçon majeure de géopolitique. On n'attaque pas la Russie, en tout cas pas si ça suppose d'y passer l'hiver. L'empereur prend bien Moscou, mais il en ressort vite. C'est la longue retraite de Russie qui lui coûte au bas mot 200 000 hommes, sans compter 150 000 prisonniers. Alors forcément, ça aiguise les appétits, une France à ce point affaiblie. En 1813, la France a reculé jusqu'à ses limites de 1792.
Bah c'est la cata, tout ça pour ça, Stéphane.
Les coalitions se multiplient, les attaques aussi, et Napoléon n'a pas d'autre choix que d'abdiquer une première fois en 1814, abandonnant son trône à Louis XVIII, le frère cadet de Louis XVI, c'est donc la Restauration.
C'est bien de savoir laisser sa place comme ça, c'est encore ce que me disait Michel Drucker l'autre jour.
Oui, mais il y aura tout de même un dernier soubresaut, les 100 jours.
La dernière fulgurance de Napoléon qui débarque à Cannes le 1er mai 1815 et regagne Paris en 3 semaines. C'est le vol de l'aigle, Napoléon, 3 mois d'une aventure qui se termine le 18 juin 1815 à Waterloo en Belgique face aux armées de la 7e coalition. C'est peut-être la plus célèbre de ces batailles, celle dont des passionnés se demandent toujours 2 siècles plus tard pourquoi Napoléon n'a pas gagné.
Et Waterloo, c'est aussi un très beau titre d'ABBA, Stéphane, vous savez ça?
Je le savais, évidemment. Waterloo, Waterloo. C'est aussi le nom d'une gare de Londres, évidemment. Nous, on a la gare d'Austerlitz. Et eux, ils ont la gare de Waterloo. Waterloo Station. Waterloo, Waterloo, Waterloo. C'est aussi dans le poème Expiation, mais dit en français, de Victor Hugo, qui fait le récit de cette bataille. Cette bataille de Waterloo, en fait, je ne sais pas qu'on dit Waterloo, alors que ça se passe en Belgique, hein, Waterloo, met fin à 25 ans de guerre dans une France qui retrouve la paix pour 50 ans. 20 ans à peine séparent le Bonaparte fringant du pont d'Arcole, les cheveux au vent, et le Napoléon vieillissant, grossi, presque chauve, qui abdique pour la seconde fois. Et en plus, il avait une crise d'hémorroïdes quand il était à Waterloo.
Oh, Stéphane, toujours des petits détails en plus, que ça, c'est le petit plus, Stéphane.
C'est vrai, on dit, on va en parler avec notre invité, s'il n'avait pas eu cette crise d'hémorroïdes.
Les hémorroïdes à cheval, c'est quand même compliqué.
Oui, c'est pour ça. Et voilà.
Ah, c'est pour ça qu'on a perdu?
Oui, pareil.
On demandera quand même à un vrai historien après, pour vérifier.
Non, parce qu'il y a un livre qui est sorti, Pourquoi les hémorroïdes de Napoléon nous ont fait perdre la guerre. Cette fois,
c'est Laurent Baffy, ça, c'est pas.
On ne prend aucun risque. Napoléon fait encore tellement peur qu'on le déporte au fin fond de l'Atlantique Sud, sur l'île de Sainte-Hélène, à Longwood House. Il y meurt 6 ans plus tard, en 1821, le temps de méditer sur son destin.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour parler de ce destin exceptionnel, c'est vraiment le mot, mais quelque peu complexe et parfois complexant pour les armées qui lui ont fait face, nous sommes avec Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon et enseignant à l'Institut catholique d'études supérieures. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Bonjour Thierry Lenz. Vous avez écrit une quarantaine d'ouvrages consacrés au consulat, à l'Empire. En cette année, vous publiez Napoléon, dictionnaire historique aux éditions Perrin. Vous tentez de faire le point sur les connaissances et les recherches les plus récentes sur Napoléon, son œuvre, les événements de sa vie, ses réussites et ses échecs, la trace qu'il a laissée dans la France contemporaine.
Le bouquin qu'il faut acheter, c'est si on veut tout savoir sur Napoléon. C'est plus simple de le dire comme ça, Stéphane. Il y a un bouquin sur Napoléon, c'est celui-là.
Mais on parle, là, aujourd'hui, on parle de l'attaquant, donc le plus grand stratège de tous les temps. Clausewitz disait que c'était le dieu de la guerre. Vous êtes d'accord avec Clausewitz?
Ah ben, incontestablement, oui. Vous l'avez d'ailleurs tellement bien raconté que je me demande si j'ai encore quelque chose à ajouter, mais
vous êtes notre maître, Thierry Lenz.
Oui, en effet, c'est si vous voulez, dans sa carrière militaire, effectivement, l'offensive a un rôle primordial et c'est un des premiers à l'avoir conçu comme tel, puisque sous l'Ancien Régime, on faisait la guerre un petit peu lentement, on s'arrêtait pendant l'hiver, on se faisait un peu de courbettes. La Révolution a commencé à bouleverser tout ça et Napoléon l'a mis en système, comme d'habitude, c'est un homme à système. Et donc ce système était assez simple, qui consistait toujours à être le plus fort à l'endroit où on veut attaquer. Donc y compris en dégarnissant, vous l'avez bien expliqué pour Austerlitz, en dégarnissant des parties pour y attirer l'adversaire. Et donc on bougeait beaucoup. C'était l'offensive était comment dire, l'offensive et la manœuvre étaient ces deux principes de base. Il les a abandonnés par la suite et c'est là la rupture de votre récit, c'est là que les choses se gâtent.
Mais on va essayer de comprendre justement la recette de ses succès militaires, pourquoi c'était un bon attaquant. On va continuer de parler dans Historiquement Vôtre des meilleurs attaquants de l'histoire. Ça tombe bien, c'est le thème de l'émission
du
jour.
Vraiment, Stéphane.
Et on va continuer d'en
parler. Vous étonnez vous-même.
De Napoléon avec notre invité Thierry Lenz. On est toujours sur Europe 1 tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
De A comme Austerlitz, à W comme Waterloo, comme le disait tout à l'heure Stéphane. On parle de Napoléon cet après-midi, le meilleur des attaquants, avec Thierry Lenz, auteur de Napoléon, dictionnaire historique chez Perrin.
Oui, d'ailleurs, vous vous rappelez, Napoléon avait écrit à son frère « Ce n'est pas avec un grand nombre de troupes, mais avec des troupes bien organisées, bien disciplinées, qu'on obtient des succès à la guerre. » Ce sont vraiment des succès, ça ne marchait pas à tous les coups, hein, Thierry Lenz, quand même.
Écoutez, ça a marché quand même.
Ça a marché longtemps. Hein.
Très longtemps, ça a marché très longtemps. D'abord, il y a un élan qui a été donné par la fameuse affaire du camp de Boulogne. À un moment, Napoléon a voulu débarquer en Angleterre, il a massé des troupes sur les côtes de la mer du Nord, mais en fait, il n'est jamais passé en Angleterre, mais ses troupes sont restées pendant 3 ans Là, à attendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a des soldats qui attendent? Ben, on les fait s'entraîner. Et ce qui fait qu'il est parti dans ses premières campagnes avec une armée qui était parfaitement huilée. Mmh. Alors que de l'autre côté, on avait des troupes qui étaient souvent des troupes professionnelles, souvent des troupes qui vivaient, vous avez parlé d'Iéna tout à l'heure, les Prussiens étaient habillés comme on l'était sous Frédéric le Grand pendant la guerre de 7 ans. Enfin, rien n'avait été modernisé. Napoléon, lui, avait compris que, comme il l'a dit, on gagne la guerre avec les jambes de ses soldats, mais aussi un petit peu avec la tête du général, quand même. Mmh. Et c'est le mouvement qui a beaucoup surpris les autres.
Et la conscription, ça a changé les choses. Vous le disiez, avant, on achetait des régiments, et donc c'était plutôt des mercenaires. Là, tout d'un coup, c'est le peuple
les
qui...
Les gens se battent pour leur pays, c'est une nouveauté.
Voilà, c'est une nouveauté. Et justement, Napoléon n'a jamais eu de problème d'effectif, si on peut dire, puisque la construction était générale, elle concernait tous les hommes entre 18 et 25 ans qui étaient sous les drapeaux pour la durée de la guerre, donc ce qui... dans le cas de Napoléon, fait assez long. En effet, ces hommes se battaient pour la nation, comme on a dit sous la Révolution. C'est une idée d'ailleurs qui a été piquée, si je puis dire, à Napoléon par les autres, puisqu'à partir de la défaite de la Prusse en 1806, tous les pays ont commencé à monter. Alors, ils ne pouvaient pas instaurer la conscription parce que ce n'était pas dans leur mode de pensée, mais on a monté des petites milices, le Landwehr pour les Autrichiens, qui constituaient des troupes très très importantes. Et ce qui fait qu'au fond, une fois que les adversaires de Napoléon ont eu appris sa façon de faire la guerre, pour lui, ça a été de plus en plus difficile.
Mais moi, ce que j'aimerais comprendre avec vous, Thierry Lenz, c'est au fond, comment on devient le meilleur attaquant? La psychologie de Napoléon, c'est quoi? C'est de gagner parce qu'il était petit, parce que...
J'ai entendu votre partenaire tout à l'heure dire qu'il était petit, et Napoléon n'était pas petit.
Mais comment ça, Napoléon n'était pas petit?
Il faisait 1m68
ou... 69, 1m69,
qui est très grand.
1m69, cher
monsieur. Mais pour l'époque, c'est la moyenne.
C'est la taille moyenne des Français de l'époque.
Alors pourquoi, par exemple, on a cette idée que Napoléon est petit? Pourquoi ça a été dit,
répété? Parce qu'il est entouré de gens qui ont des plumes, des grands chapeaux, etc. Puis parce que c'est pas un géant non plus, mais c'est une taille moyenne, il est assez fluet, jusqu'à un certain âge,
il a pris de l'embonpoint.
Quand il prend le commandement de l'armée d'Italie, c'est une ablette, quoi. Hein. Alors on le surnomme le petit caporal, parce qu'il est tout mince, il est tout maigre. Quand vous regardez les vêtements de lui qui sont conservés au musée de l'armée, on aurait envie d'avoir son régime alimentaire, parce que c'est quand même très fluet, quoi.
Est-ce que c'est quelqu'un qui se servait de la guerre comme pour atteindre une finalité, une puissance, une domination sur l'Europe, ou il prenait plaisir à la guerre? Moi, c'est la question que je me pose souvent sur Napoléon.
D'abord, la guerre, c'est son métier. C'est le métier qu'il a appris. Donc, par conséquent, on va dire...
Il ne se pose même pas la question, en fait. Voilà, c'est juste question, un moyen pour atteindre une fin.
Quand on fait la guerre, j'allais dire, on ne la fait pas à moitié, ce n'est pas complètement vrai, parce qu'il y a quand même des règles qui sont encore appliquées dans les guerres de l'époque. Par ailleurs, son projet, c'est pas juste d'aller faire la guerre, évidemment. Son projet, c'est un projet dont il hérite. C'est un vieux projet français qui date de Louis XII, mais tenté par Louis XIV et par la suite, c'est la prépondérance française en Europe. On pourrait dire la domination, mais la prépondérance, c'est plus joli. Et donc, cette prépondérance, il est le dernier dans l'histoire de France à avoir pu essayer de la réaliser. Alors, vous allez me dire, les autres se défendent la liberté contre les tyrans. C'est pas vrai. Les autres, ils ont aussi leur ambition de prépondérance, et notamment l'Angleterre. Et après la bataille de Waterloo, l'Angleterre va dominer le monde comme personne n'a dominé le monde au XIXe siècle, pas même les États-Unis dans les années 1950.
Donc c'était vraiment une défaite. En tout cas, pour tout savoir sur Napoléon, je renvoie Thierry Lenz à votre dernier ouvrage qui vient de sortir chez Perrin, Napoléon, dictionnaire historique. Merci beaucoup Thierry Lenz d'avoir été avec nous.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Marc-Antoine, Napoléon, voilà des destins somme toute assez classiques qui étaient faciles de vous raconter en peu de mots. Je n'en tire donc aucune gloire.
C'est normal, oui.
En revanche, vous Mathieu, vous avez choisi un personnage bien plus complexe que Marc-Antoine et Napoléon. Mmh. Un grand attaquant, lui aussi, mais à la psychologie si singulière qu'il vous est impossible de nous la résumer en 5 minutes.
Oui, enfin, surtout Éric Cantona, puisque c'est de lui qu'il s'agit, me pèterait la gueule si j'osais résumer sa carrière en 5 minutes. Car oui, Stéphane, Éric Cantona... Vous le savez, c'est...
Une très longue...
Carrière à la fois dans le football, puis dans le cinéma, avec des détours saisissants par la peinture et les arts martiaux de plein air pratiqués sans licence. Oui, Éric Cantona, dit The King à Manchester, où il a connu ses plus belles années footballistiques, fait partie de ces personnages qui sont bigger than life. Autrement dit, Stéphane...
C'est plus grand que la vie.
Vous n'êtes pas chevalier de l'ordre britannique pour rire. C'est pourquoi le format du portrait ne se prétend pas à Éric Cantona. Je vous propose plutôt aujourd'hui un quiz, puisque déjà vous excellez dans les quiz,
oui, j'adore.
Pourquoi pas, autour des faits d'armes de celui qui dira un jour dans un film de Ken Loach « I'm not a man, I am Éric Cantona ». Stéphane, vous allez jouer contre Olivier Pouls qui nous a rejoint plus tôt en studio avec la possibilité... alléché par l'idée de peut-être vous humilier.
Mais qu'est-ce qu'il y a à gagner ?
Alors, il y a à gagner juste...
Un pot de confiture.
Un pot de confiture.
Que j'ai fait moi-même
en plus.
Que
vous avez fait vous-même en plus. Alors, comme Cantona est resté bien perché tout au long de sa carrière, on va prendre les choses chronologiquement, c'est le plus simple. Et normalement, on devrait voir se dessiner en filigrane un portrait de l'artiste. Comme vous le savez, quoique marseillais, Éric Cantona a été formé à l'Agioserre sous la férule de Giroud, qui a eu le plus grand mal à tempérer son côté déjà sanguin. Pour ma première question, nous partons en Pologne à la fin des années 80. Oui, c'est comme ça que je vois la Pologne à la fin des années 80. La GIA participe à une tournée d'été qui n'aura d'amical que le nom. Après avoir régalé la galerie d'une sublime reprise de volée contre l'équipe locale, la victoire semble acquise pour Auxerre, mais voilà, il s'agit là du premier match télévisé dans l'histoire de la Pologne communiste. Il est crucial pour le parti que l'équipe polonaise accède à la finale. L'arbitre, désireux de survivre à la rencontre, siffle alors un pénalty imaginaire pour les locaux, un partout. Hors de lui, Cantona choisit de signifier son courroux en montrant son cul aux caméras. Première surprise pour la soirée pour le téléspectateur communiste, mais pas la dernière. Car après avoir marqué son tir au but, que va faire Cantona ? 1. Il va aller chanter l'international devant le cop des ultras polonais pour les chauffer un peu. 2. Il va danser devant les ultras polonais pour se foutre de leur gueule. Ou 3. Il va danser devant les ultras polonais. L'un d'entre eux va lui jeter un œuf pourri sur la tête et Cantona va partir en tribune le chercher pendant que Giroud lui hurle « Non Eric, on est chez les cocos, tu vas prendre 10 ans, je pourrais pas te sortir de là, pense à Isabelle !» Isabelle étant sa compagne de l'époque.
Oh bah 3, vu 3, le personnage.
Oui. J'aurais dit 3.
Cantona est parti chercher le mec dans les tribunes, seul
fou,
contre tous les Polonais qui étaient tous des mineurs de fond. Il s'en est sorti parce qu'il lui restait quelques dollars dans la poche. C'est lui qui l'a raconté après. Il était en train de m'étouffer. J'ai juste eu le temps de prendre des dollars et de les balancer en l'air. Et ils ont laissé tomber pour ramasser les dollars. Et il s'est échappé. Le décor étant planté, on peut passer à la deuxième question. Quel ancien sélectionneur de l'équipe de France a été considéré par Cantona comme, je cite, l'entraîneur le plus nul du football français depuis Louis XVI ?
Ah si, ça je sais.
Henri Michel, Michel Platini, Jacques Santini ou Raymond Domenech ?
Domenech,
oui, ouais. Vu le palmarès.
Domenech, c'était en 2009. Oui. Ne notez qu'à l'époque, Éric Cantona s'était déjà passablement assagi par rapport à ce à quoi il comparait le sélectionneur Henri Michel, qui avait eu, lui, le toupet de ne pas le sélectionner en 1988. En effet, à l'époque, il avait comparé le sélectionneur des Bleus à A. un bigorneau desséché, B. une palourde sans charisme, ou C. un sac à merde.
J'oserais pas dire le C, mais...
Je pense C, mais j'oserais pas le dire.
Oui, bah lui, il a osé. Sac à merde, direct. Mais oui, on dit souvent que Cantona est un poète, il était déjà poète à l'époque. D'ailleurs, à quoi a-t-il comparé le ballon dans une citation devenue célèbre ? À un enfant ? À un jouet ? À une femme ? Ou à une fleur ?
Oh, une femme.
Oui, une femme.
Vous avez les réponses,
non,
vous ?
Non.
C'est les réponses. Stéphane, vous êtes incroyable. Qui est le con qui a donné les réponses à Stéphane Bern qui est en train de pourrir mon quiz ? Évidemment qu'il n'en a aucune idée. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est Henri Michel ? Ben, bref, vous avez essayé de redorer votre blason, vous enfoncez.
Non, mais oui, mais la confiture.
Le ballon, c'est comme une femme.
C'est comme vous pendant votre
Écoutez
quiz.
Comme c'est beau. Le ballon, c'est
beau,
comme une femme.
Sais.
Il aime les caresses. Et oui, c'était avant Me Too. Un lyrisme onirique et délicat qui trouve sa quintessence filmée en 2001 sur le plateau de Côté Tribune, l'émission de Patrick Chen. Cantona s'en prend à deux journalistes, dont un de l'équipe, lui reprochant de ne pas l'avoir soutenu après son léger coup de sang contre un supporter de Crystal Palace qui s'était pris les deux pieds d'Eric Cou en pleine mâchoire façon Bruce Lee. L'équipe a eu le malheur de titrer le lendemain du célèbre high kick indéfendable. D'après vous, quels ont été les mots exacts de Cantona ce soir-là devant Patrick Chen ? A. Quand même, eu égard à mes prestations passées, vous pourriez avoir l'amabilité de modérer un tant soit peu vos propos.
Ça serait trop poli, ça.
B. Si ça ne tenait qu'à moi, je quitterais ce plateau, mais je reste car on ne capitule pas devant la connerie. Ou C. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous pisserais au cul à tous.
Je sais évidemment, mais comme on est parti.
C'est un peu plus vulgaire.
On
mais
est parti, ben on va écouter la réponse.
Je leur pisse.
C'était notre instant Rimbaud pour tous les amoureux de poésie. Voilà Stéphane, maintenant vous savez à quoi vous tenir si jamais vous le croisez. Et on retiendra de tout ça Stéphane, que vous avez honteusement triché et vous pensiez que je ne le verrais pas.
Mais je vous assure, j'ai répondu en mon âme et conscience.
Bien sûr.
Parce que j'aime beaucoup Éric Cantona.
Ouais.
Vous, je ne suis pas sûr quand il vous verra.
J'adore Éric Cantona, puis il le sait, j'ai déjà eu l'occasion de le croiser.
Très bien. Merci en tout cas Mathieu, c'était 100% vrai-faux.
100% vrai-faux, une innovation.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre, celle où l'histoire éclaire notre vie quotidienne. Car l'histoire est partout, voyez-vous. Dans nos coutumes, nos expressions, mais aussi dans notre assiette.
Ah oui Stéphane, et pour nous dévoiler l'origine des recettes, accueillons celui qui, en l'espace de 2 semaines, a déjà tenté de nous empoisonner à l'absinthe, nous a fait croire qu'on allait bouffer du caviar avant finalement de nous apporter du comté. Bonjour, ou plutôt rebonjour Olivier Pouls.
Bonjour, mais en tout cas, il n'y aura pas de confiture pour vous, en tout cas, cher Stéphane.
Et pourquoi donc ?
Parce que vous êtes triché.
Bah, triché pas dans le quiz, pas de confiture. Vous nous avez apporté de la confiture,
Stéphane. Je vais les faire. Je vous les apporterai dans les jours qui viennent.
Non, je pensais qu'elles étaient déjà là, moi.
Bah, on est en pleine saison, c'est quoi votre... Mais je voulais d'abord connaître votre parfum favori, oui, pour pas commettre d'impair.
J'aime.
Alors vous, je sais que c'est la figue.
Amère. Ah, figue, oui, ah,
moi,
figue.
Moi, orange amère, abricot orange amère et fruits rouges. 4 fruits rouges.
Ah oui. Bah,
mais sinon,
rouges, on peut faire,
je ne fais qu'avec les produits de mon jardin. C'est-à-dire, j'ai des coins, donc on fait gelée de pommes
oui.
Ou poires. C'est bon, tout ce que j'ai.
Les auditeurs ont envie de savoir, vous faites vraiment des confitures? C'est-à-dire que vraiment, vous allez récolter vos fruits et vous les faites vous-même avec vos petites mains?
Bah avec quoi voulez-vous que je fasse? Mais je me fais aider, évidemment.
Ah, vous vous faites
je connais pas
aider.
Bien les proportions de sucre et de...
Bien sûr.
Je vais vous dire ça dans un instant.
Maintenant, vous le saurez, vous pourrez le faire vous-même.
Mais tout d'abord, vous rappelez que la confiture, c'est effectivement quelque chose qui ne date pas d'hier. Et les Romains, déjà, pour garder un peu de l'été durant l'hiver, avaient à cœur de conserver les fruits. Et eux, ils les faisaient cuire dans du miel. Forcément, à l'époque, il n'y avait pas encore le sucre. Mmh. Le sucre, il n'arrive que
ça
plus tard.
Ça devait être bon avec le miel.
Ça devait être très très bon, bien sûr. Et ensuite, on va créer la confiture qui, à l'origine, comme beaucoup d'ailleurs de recettes, a des vertus dites médicinales.
Bon.
Et en 1955, le premier traité qui parle vraiment de confiture, et qui s'appelle d'ailleurs le traité des fardements et confitures, est écrit par qui, d'après vous ?
Alexandre Dumas.
Non. 1555, il est très connu pour avoir écrit d'autres choses, Nostradamus, figurez-vous.
Non, arrêtez.
Eh oui, le célèbre Nostradamus est celui qui est le premier à inventer les recettes de confiture modernes, pratiquement telles que nous les mangeons aujourd'hui.
Incroyable.
C'est incroyable. On a totalement oublié ça. Et on peut toujours, d'ailleurs, trouver ce petit traité des fardements et confitures. Et il pose les bases, effectivement, sur la question que vous posez. Quelle est la meilleure manière de les cuire, comment et surtout quelle proportion de sucre en fonction des fruits.
Toute la question, bien sûr.
Et c'est 50-50 sur Confipote, c'est écrit ça.
Alors, pour que ce soit une confiture, il y a une loi aujourd'hui qui impose qu'il y ait
une loi.
Au final,
on va en prison si on ne respecte pas.
Bah, oui, sinon, ce n'est pas précis. La confiture.
Sinon, c'est pas... Il faut 55% de sucre dans le produit final. Mais attention, chaque fruit n'est pas sucré de la même manière. Parce qu'il y a un fruit qui est... Bah oui, chaque fruit est sucré au départ, mais pas, les figues sont plus sucrées, par exemple, que les framboises. Donc, on ne va pas mettre la même quantité de sucre en fonction des fruits. Donc, il y a quelques règles à connaître. Bah, la première, par exemple, c'est qu'au plus le fruit est sucré, au moins on doit mettre de sucre. Et par exemple, pour vos fameuses confitures de figues, pour 1 kg de figues, bah, vous pouvez descendre à peu près à 500 grammes de sucre. Enfin, ça suffit.
On est à 50-50.
Bah, au final, vous allez avoir 55% de sucre total, mais il faut moins de sucre, par exemple, que si vous faites de la confiture de fraises. Où là, vous devrez avoir 600 ou 700 grammes de sucre pour 1 kg de fraises. Alors, ce qui est important aussi, c'est la cuisson de la confiture. Donc, c'est l'idéal dans une bassine en cuivre, parce que le cuivre est très conducteur et donc va donner une chaleur très homogène. Vous mélangez votre sucre, vous mélangez vos fruits, et puis les impuretés vont remonter à la surface. Et donc, ça va faire des petites ébullitions, il y a une écume. Et ça, c'est très important pendant le temps de cuisson de votre confiture, c'est d'écumer très régulièrement pour enlever les impuretés contenues dans les fruits et dans le sucre. Le secret aussi, c'est d'empoter vos confitures à chaud dans des pots qui sont évidemment stérilisés, parce que l'idée, c'est de les garder. Et ensuite, bah, une fois que vous l'avez empoté, vous fermez, vous retournez le pot, tac. Vous attendez le petit poc, ce qui veut dire que la confiture s'est bien installée. Et l'air est bien remonté au-dessus, donc là, votre confiture est prête à être stockée pour tout l'hiver. Vous allez manger.
Et je vous en apporterai.
Oui, délicieux.
C'est vrai, vous avez des bonnes confitures en ce moment,
Stéphane ? Elles ne sont pas mauvaises, oui.
On
va les faire.
On va bien goûter votre gelée de coin.
Vous prendrez votre revanche à la compétition de confiture, puisque vous avez perdu le coup, vous avez été éliminé pour cause de tricherie.
Oui,
on fera une compétition de confiture.
Est-ce que vous savez qui a importé la marmalade en Angleterre ?
La marmelade, au départ, c'est réalisé avec de la purée de fruits.
Oui. Et c'est de l'orange.
Et alors maintenant, on considère que c'est les agrumes.
Les
on
agrumes,
dit de la marmelade
les agrumes.
Pour les agrumes.
Eh bien, c'est Catherine de Bragance, qui était une princesse portugaise, qui était très laide. Et on l'appelait The Ugly Queen, la reine laide. Elle, on ne savait pas quoi faire pour qu'elle épouse, qu'elle trouve chaussure à son pied, comme on dit, qu'elle trouve un mari. On l'a fait donc épouser Charles II d'Angleterre. Vous savez, celui qui a restauré la monarchie en Angleterre. Et il ne voulait pas l'épouser parce qu'il la trouvait trop laide. Elle est arrivée avec deux ingrédients pour faire passer la pilule. Le parapluie, qu'on a appelé Umbrella, parce qu'elle était portugaise, Umbrella.
Génial.
Et donc, en anglais, vous dites Umbrella, ça veut dire parapluie. Et la confiture, parce qu'elle en mangeait toute la journée, elle s'ennuyait sous son parapluie. Et donc, on a appelé ça Marmalade.
Mais pourquoi on l'a appelé Marmalade?
Marmalada, c'est comme ça qu'on l'appelait au Portugal.
Ah, et en Marmalada, Angleterre, c'est portugais.
C'est les deux mots qu'elle a apportés en Angleterre.
Et ça, vous le savez,
Lady Marmalade, moi.
Non, mais
et d'ailleurs, le quartier de New York qui s'appelle The Queens vient d'elle. De mais Catherine alors, de Bragance. C'est une femme qui a laissé beaucoup dans l'histoire, hein, on ne le sait pas. Elle a laissé de la marmalade et elle a laissé le parapluie.
Le parapluie. On a appris beaucoup de choses dans cette chronique,
oui,
grâce
idiot,
à Olivier et aussi grâce
non,
à vous.
Non, j'ai
Stéphane.
Rajouté mon petit grain de sel ou de confiture. Un
petit grain de sel dans la confiture, voilà qui est original.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chaque après-midi dans Historiquement vôtre, on s'intéresse bien sûr aux femmes et aux hommes qui ont écrit l'histoire. Mais aussi à l'histoire des mots.
Or, qui dans ce pays connaît mieux les mots que vous, Stéphane? Bernard Pivot peut-être, et encore, c'est pas
ah
dit.
Oui,
c'est pas dit.
Oui, Bernard Pivot, bien sûr.
Mais vous aussi.
Il y a Matt Pokora aussi.
Matt Pokora les connaît bien.
Oui, oui. Mathieu, ça fait quelque temps maintenant que je vous fréquente et je vois clair dans votre jeu. Oui, vous avez une passion secrète pour l'histoire, mais vous êtes encore plus enthousiaste à l'idée de me brocarder sans ménagement, me faisant passer pour un personnage empoulé, aux références culturelles poussiéreuses, loin des réalités du quotidien des Français, passionné par des rois oubliés, et puis, j'aimerais qu'on torde le cou à tout ça. Car nous sommes un 15 septembre, et c'est le 15 septembre 1997 que Google dépose juridiquement le nom Google.fr.
Belle idée.
À l'origine, Google, avec trois O, est un terme mathématique, un entier naturel, qui correspond à 10 puissance 100, soit 1 avec 100 zéros derrière.
Et alors, est-ce que c'est vrai cette info disant que quand il dépose Google, une faute de frappe transforme le nom en fait en Google?
Ça semble vrai, mais en fait Mathieu, rien ne le prouve. Et on ne peut pas exclure que ce soit totalement faux. En gros, c'est entré tel quel dans la légende, ça viendrait de Google et c'est devenu Google. Ce qui est certain, c'est que tout le monde utilise ce moteur de recherche sur son ordinateur. Enfin, sauf les Chinois qui n'ont pas droit. Et justement, pourquoi dit-on ordinateur?
Ah oui, d'où y venons, c'était ça que vous nous aviez promis.
Eh oui. Eh bien, c'est le français Jacques Perret, latiniste et philologue, celui qui étudie la langue et la littérature, qui va proposer ce mot à IBM. Aux États-Unis, on appelle ça « a computer », que l'on peut traduire par « calculateur ». Avant « ordinateur », le professeur de la Sorbonne va proposer sans succès « congesteur »,« digesteur »,« synthétiseur ». « Ordinateur » est choisi car il a pour racine latine « ordinat », qui signifie « ordre ». Ordinateur est un mot qui existe déjà, c'est selon le Littré un adjectif tombé en désuétude, signifiant Dieu qui met de l'ordre dans le monde. En 1955, le mot est adopté, mais est-ce que nos ordinateurs ont réussi à mettre de l'ordre dans notre monde? Ah ben je laisse à chacun la liberté de son opinion.
Ah oui, là, on part sur une discussion philosophique, Stéphane.
Oui, mais
nous
c'est intéressant, vous voyez, comme quoi les mots peuvent nous mener à une vraie conversation philosophique.
Tout à fait, que nous mènerons hors antenne néanmoins. Plus qu'une émission aujourd'hui, historiquement vôtre, c'était presque une saga. D'ailleurs, bien cette émission saga, vous vous souvenez,
vous
Stéphane?
Vous vous en souvenez?
Oh, je m'en souviens, j'étais tout petit.
Oui, j'imagine.
J'étais tout petit, je vous regardais comme ça avec des étoiles dans les yeux. Oui. Si on m'avait dit qu'un jour je travaillais avec vous, Stéphane. J'étais tout petit, je regardais avec ma mémie cette émission. En tout cas, nous aurons encore balayé 2000 ans d'histoire en 2 heures, ce qui n'est pas mal. Et si vous étiez vraiment fortiche, Stéphane, vous seriez capable de nous résumer ce qu'on a appris en 2 minutes.
Bon, alors 2 minutes. Marc-Antoine s'était tapé Cléopâtre, mais ça ne lui a pas porté chance parce que Octave l'a dégommé. Ensuite, Napoléon, il savait bien manœuvrer les troupes, il les mettait en mouvement,
il
les entraînait,
petit.
Il n'était pas petit, il faisait 1m69. Et ensuite, on a appris que Cantona, c'est le king.
C'est le
et
king.
Que, et qu'il s'est à l'arrêt de d'un
certain nombre. D'à peu près tout le monde, en fait, pour résumer. Bah,
pardon,
tout le monde.
Pardon, j'ai utilisé des propos de Cantona.
Bien
je
sûr.
Ne me permettrai pas dans ma bouche de dire certaines
non,
choses.
Non, mais ça pourrait être extrait néanmoins et replacé
non.
ailleurs. Votre esprit de synthèse est en tout cas sidérant, Stéphane. Stéphane, vous devez être éprouvé par cette performance, mais auriez-vous encore la force de nous donner le programme qui nous attend demain ?
Demain, vous allez boire ce que vous allez boire.
Boire ou voir, Stéphane, j'ai un petit doute là.
Non, boire. Hein ? Oui, parce que demain, on parle des grands buveurs dans l'histoire. Le poète Lord Byron, le premier ministre britannique Sir Winston Churchill.
Et Gérard Depardieu aussi.
Bon, si vous voulez, Mathieu. Bref, une émission à consommer sans modération demain, de 16h à 18h sur Europe 1.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.